toutes les énergies du sport nous rassemblent. Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
RMC. Grand plateau. Christophe Cessieux.
Salut à tous, comme souvent dans les derniers rendez-vous de grandes courses cyclistes, Primoz Roglic a joué à se faire peur dimanche dans la dernière étape du Dauphiné. Si le Slovène a réussi à sauver son maillot jaune et à remporter pour la deuxième fois de sa carrière l'épreuve, il ne l'a fait que pour 8 petites secondes. Alors que faut-il retenir de la semaine du Slovène? Son succès ou sa défaillance dans la dernière étape? La question sera débattue dans un instant par toute l'équipe de Grand Plateau. Le principal rival de Roglic durant ce Dauphiné aura donc été Matteo Jurgensen, la grande révélation de la saison, vainqueur de Paris-Nice et deuxième à quelques secondes de Roglic. L'Américain s'affirme comme un solide leader de remplacement pour la Visma Lease Bike en cas de renoncement de Vingegaard. Leader ok, mais peut-il vraiment prétendre à la victoire sur la grande boucle? Là aussi, on en débattra et on écoutera les dirigeants de la formation néerlandaise. Une semaine de critérium durant laquelle Remco Evenepoel aura montré plusieurs visages. Tout d'abord, celui du super rouleur, vainqueur du chrono mercredi, mais aussi celui d'un garçon lâché à 3 reprises en 3 jours de montagne. Après cette semaine de course, fait-il encore partie des favoris, voire même des outsiders pour le Tour de France qu'il découvrira dans un peu moins de 3 semaines? C'est aussi l'une des interrogations à laquelle nous tâcherons de répondre. Enfin, toujours pas de successeur français à Christophe Moreau, dernier vainqueur tricolore du Dauphiné en 2007. Pas de vainqueur, d'accord, bon, ça, on s'y attendait, mais pas de top 5 non plus, ni même de top 10. Il faut descendre jusqu'à la 15e position pour trouver trace d'un certain David Godu. Mais on le sait, pour lui, l'important n'est pas de briller sur le Dauphiné, mais bien sur le Tour. C'est ça, son objectif. Godu qui fera évidemment partie de notre baromètre des Français qu'on espère un peu plus à leur avantage dans le Tour de Suisse que sur ce Dauphiné. Plein de questions auxquelles toute l'équipe de Grand Plateau va se faire un plaisir de répondre, à commencer par le régional de l'étape. Et oui, on était chez lui, au plateau des Glières, évidemment, Jérôme Coppel, notre haut savoyard. Salut Jérôme.
Salut Christophe, salut à tous. C'est une magnifique étape hein, quand même. C'est une très belle arrivée. Hein. J'ai hâte que le Tour arrive là-haut une fois quand même.
Exactement. Il était aussi sur les sommets des Glières. Il en est redescendu pour nous apporter son analyse. Arnaud Souk est avec nous. Salut Arnaud.
Salut les amis. J'en suis redescendu avec une petite crêpe à la confiture de myrtille qui était pas piquée des hannetons.
Pas piquée des hannetons, voilà. C'est très bien. Une belle expression. Je sais pas d'où tu la sors. Enfin, Johan Breda, le rookie de l'équipe.
Salut messieurs.
Tu connais le plateau des Glières?
Salut. Bah non, j'y suis jamais allé. Mais j'ai suivi avec Arnaud, évidemment, la voix d'Arnaud. Et je connais un petit peu quand même de visu, quand même. Je regarde les étapes, quand même.
Exactement. Et donc, avec toi, on va parler de tout ça. 8 secondes pour un maillot jaune. Non, nous n'allons pas aujourd'hui vous raconter à nouveau la folle histoire du Tour de France 89 et le terrible épilogue vécu par Laurent Fignon. Ces 8 nouvelles secondes, ce sont celles qui ont donc permis à Primoz Roglic de conserver son maillot jaune dimanche dans la dernière étape du Dauphiné.
On va regarder le sprint final entre Carlos Rodriguez et Matteo Jurgensen pour la victoire d'étape. La deuxième position actuellement pour Matteo Jurgensen qui va essayer de gicler. C'est pas forcément la giclette de Roglic ou la giclette de Tadej Pogacar. Et d'ailleurs, il ne parviendra pas à s'imposer. C'est Carlos Rodriguez qui s'impose devant Matteo Jurgensen. Cela signifie qu'il va prendre 6 secondes de bonification à Matteo Jurgensen alors que Derek J va terminer en troisième position actuellement à 15 secondes. Primoz Roglic, ah oui, ça ne sera quand même pas joué à grand chose cette affaire-là. Primoz Roglic qui en termine avec 49 secondes de retard sur la ligne d'arrivée. Cela signifie qu'il va s'imposer, Primoz Roglic, pour son deuxième Dauphiné après 2022, mais avec seulement quelques petites secondes d'écart.
Ah, quelques toutes petites secondes, 8 en tout, suspense incroyable donc dans le final de cette dernière étape qui conduisait, on le disait, le peloton sur le plateau des Glières au lieu de la résistance à laquelle Roglic a finalement rendu un bel hommage en résistant vaillamment dans le final à un Américain qui en voulait à sa peau et surtout à son maillot jaune. Arnaud, au vu des deux précédentes étapes où il avait été souverain, on a été presque surpris de voir Roglic en difficulté dans ce final.
Oui, on a été surpris, c'est vrai, moi le premier, et même nous Christophe, on était à l'antenne à ce moment-là, on s'imaginait pas Roglic craquer à ce point-là, en tout cas face à Carlos Rodriguez et Matteo Jurgensen. On se disait que cette minute et quelques d'avance qu'il avait, bon, il allait la conserver assez facilement. Après, si on se replonge un petit peu dans la semaine de Roglic, bon, déjà, il y a eu le back-to-back quand même, hein, victoire sur l'étape de vendredi, victoire sur l'étape de samedi, troisième du chrono, et puis le jeudi, il y a eu cette étape neutralisée et Roglic, il est parti au sol ce jour-là. Donc, c'est vrai qu'il a eu des grosses douleurs au cou, il avait des douleurs aussi au niveau de l'arrière du dos, il avait des douleurs au niveau de la main gauche, il n'arrivait plus à bouger sa main gauche, donc peut-être que ça l'a finalement un type handicapé. Evenepoel, c'est typiquement ce qu'il expliquait.
On sait que c'est deux ou trois jours après que les chutes.
Evenepoel dit c'est deux jours après, mais peut-être que Roglic, ça s'est ressenti trois jours après. Et puis après, il le disait lui-même, il n'était pas non plus arrivé à 100% ou à 110% sur ce critérium du Dauphiné. Donc finalement, il y avait un moment où c'était logique pour lui de craquer. Ça a été ce jour-là. Bon, je pense quand même que ça gâche pas le reste de sa semaine qui a plutôt été assez brillant, je trouve.
Jérôme, il aurait pas fallu un ou deux kilomètres de plus quand même pour Roglic.
Non, c'est clair. Et puis surtout que voilà, la fin, vous avez vu la fin de cette montée. Il y a un moment, il y a une petite redescente avant vraiment d'aller chercher le faux plat montant d'arrivée. Non, bien sûr, ça s'est joué à rien. Après, Roglic, il a quand même cette faculté à jamais paniquer, à vraiment, voilà, quand il sent qu'il est dans le dur, il prend son rythme et il arrive à toujours revenir un peu sur la fin. On l'a vu au chrono, hein, ça a été un peu la même chose. Au premier point intermédiaire, on s'est dit que ça allait être compliqué et après, finalement, il arrive à sauver les meubles. Par contre, Jorgensen, finalement, heureusement, on va dire qu'il perd pour 8 secondes parce que je pense qu'ils ont un peu discuté avec Rodriguez pour dire tu roules, je te laisse la victoire d'étape, etc. Oui. Et s'il perdait le critérium pour 4 secondes, là, ça aurait été vraiment les boules. Mais moi, je suis assez d'accord avec Arnaud. Je pense qu'il faut retenir pour Roglic, c'est qu'il n'est peut-être pas arrivé à 100% et il gagne quand même le Dauphiné. Voilà, on va en parler après, mais il y en a d'autres, je pense, qui ont plus de motifs d'inquiétude que lui.
Et puis, ça n'a pas été le seul, Roglic. Hein. Vlasov a lâché très tôt également. On a l'impression que c'était un problème chez la Bora complètement. Peut-être la préparation qui n'est pas encore complètement peaufinée. Et ce dernier jour de course a été très dur. C'était 3 étapes de montagne assez énormes. Arnaud, tu les as commentées. C'était extrêmement difficile.
Plus la météo.
Donc voilà, c'est l'équipe Bora qui a un petit peu craqué en ce dimanche. Vlasov qui n'a pas pu aider Roglic jusqu'au bout. Et ça explique aussi pourquoi le Slovène a été lâché comme ça.
Bon, et puis ils ont eu tous leur jour sans. Hein. Matteo Jorgensen a eu son jour sans également vendredi parce qu'on dit qu'il a été pris dans une cassure. Moi, je suis pas convaincu.
Non, c'est
moi,
pas
je pense
une cassure.
Il a juste pas pu suivre le rythme qu'a imprimé Vlasov au moment où Vlasov a imprimé ce rythme-là. Donc ce jour-là, bon, bah, Jorgensen a eu son petit jour sans. Globalement, voilà, je pense que.
Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'est plus habitué au jour sans. Quand tu vois Pogacar disputer le Giro, ça n'existe plus les jours sans pour lui. Ah oui, l'année dernière, tu as raison. Mais cette saison, c'est... déjà. Ouais.
Mais c'est ça qui biaise un peu notre vision de ce Dauphiné, je pense. Parce qu'en fait, on a tous en tête ce qu'a fait Pogacar au Giro, où il a dominé, archi-dominé quasiment, on va dire, facilement. Et puis là, ça nous fait bizarre de voir des mecs qui sont un peu dans les cordes. Voilà, Evenepoel, Roglic, de temps en temps Vlasov ou Jorgensen. Moi, je trouve que Roglic, il n'a pas été si impérial que ça toute la semaine. OK, il gagne 2 étapes, mais il les gagne sur ses qualités à la fin, avec sa giclette, à la Roglic.
De montagne,
Et ouais, mais si on prend le chrono, alors on va dire Evenepoel, ça a fait l'inverse. Si on prend le chrono, il est pas mal, mais il est pas si bien que ça. Je pense que de toute façon, il y a aucun des favoris, à part peut-être Jorgensen, enfin favori ou outsider pour le Tour, qui sont arrivés au départ de ce Dauphiné à 100%. Donc, ils ont tous une marge de progression d'ici le départ de Florence.
Et c'est encore intéressant de se dire justement qu'il y a une marge de progression chez tous ces coureurs-là, parce que bon, pendant ce temps-là, Pogacar s'entraîne tranquillement. Ça veut dire que malgré tout, ils ont quand même montré de belles choses. Moi, je pense qu'il y a eu quand même des vraies belles performances de la part de Primoz Roglic, de la part de Matteo Jorgensen. Je pense qu'il y a eu une vraie belle performance aussi de la part de Remco Evenepoel sur le chrono. Donc, se dire que ces gars-là, on écoutera tout à l'heure Evenepoel nous expliquer qu'il n'était certainement pas à 100% de ses moyens sur ce critérium du Dauphiné, se dire que ces gars-là ont encore une belle marge de manœuvre, ça nous promet quand même de belles choses sur le tour à venir, je trouve.
Vous n'êtes pas en train de nous vendre un faux suspense là ?
Non, je crois pas.
Non, mais moi, je ne demande qu'à vous croire. Mais j'ai quand même un peu de mal. Je trouve, même, tu vois, les impressions visuelles données par Roglic...
Moi, je suis désolé, vendredi, je ne suis pas d'accord.
J'avais les images de Pogacar dans la tête, je le voyais tellement plus facile.
Je peux pas m'empêcher de penser que si Pogacar avait été sur ce Dauphiné, il n'y aurait même pas eu de match, en fait. Il aurait lâché tout le monde. Là, on voit que Roglic et Evenepoel, pour le coup, n'ont pas beaucoup de marge, même sur le reste du peloton. On parle d'ailleurs Jorgensen. Même s'il est en pleine progression, on va en reparler, mais qui reste un équipier de Jonas Vingegaard, qui reste en dessous du Danois intrinsèquement. On parle d'autres coureurs du AE. Alors, Ayuso a abandonné très tôt quand même. Mais ils n'ont pas beaucoup de marge, n'empêche. Un Tadej Pogacar, même avec cet état de forme-là, je pense ce serait largement imposé. Après, c'est du cyclisme fiction. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de penser comme ça. En fait, il est tellement exceptionnel, Tadej Pogacar, que j'ai l'impression que même des Roglic et Evenepoel sont largement en dessous.
Non, mais ça, c'est sûr. De toute façon, Vingegaard et Pogacar, ils sont au-dessus. Il n'y a pas match. Même Roglic, il va gagner quelques pourcents avant d'arriver au départ du Tour. Mais il est quand même, je pense, un ton en dessous. Maintenant, attention, une course d'une semaine au mois de juin avec une course de trois semaines au mois de juillet, on sait tout ce qui peut se passer. Il peut se passer vraiment plein de choses au mois de juillet. T'as beau être le plus fort, t'as beau avoir tout fait, bah des fois, c'est un mec un petit peu moins fort qui va l'emporter. Rappelez-vous, Nibali en 2014, il fait que 7e du Dauphiné, il va gagner le Tour. Oui, il gagne le Tour parce que Froome et Contador tombent, mais ça peut arriver à Vingegaard, ça peut arriver à n'importe qui. Donc, le Dauphiné, ça nous donne une idée, mais il ne faut pas rester sur forcément ce qu'on voit ou les résultats bruts. Quoi.
Mais encore une fois, moi, je trouve sévère avec Roglic. Sincèrement, je vous trouve sévère avec Roglic moi je trouve je vous trouve sévère aussi avec Bora, enfin surtout toi Johan. Moi je trouve que Bora, bon c'est vrai dimanche on les a pas trop vus, mais vendredi enfin je veux dire,
moi, je te parle que de dimanche pour Bora.
Moi vendredi et samedi j'ai trouvé quand même justement que l'objectif il était plutôt rempli pour Bora. Bon, à voir.
Mais de toute façon c'est juste des impressions qu'on a.
Je suis pas en train de te dire que Roglic va battre Pogacar, c'est pas ça. C'est juste dire, moi je suis agréablement surpris, voilà, par Roglic. J'attendais pas un Roglic aussi haut cette semaine. Voilà.
Ouais. Mais bon, dimanche, j'avais quand même. Bon, il avait pas le casque de travers, mais ça m'a quand même rappelé la bonne belle fille quand même.
Oui, alors ok, il est un tour en dessous. Jérôme le disait de Pogacar et Vingegaard, mais chaque coureur, on les a vus avoir un jour sans, même sur le Tour l'an passé. Alors Pogacar avait eu un gros jour sans le jour du col de la Loz, l'arrivée à Courchevel. Il avait déjà eu un jour sans le jour de l'arrivée à La Reims avec Marie Blanc, mais le lendemain, c'est lui qui gagne en lâchant Vingegaard dans Cotré-Camp Basque. Donc tous les coureurs peuvent avoir un jour un petit peu moins bien. Ça arrive, il n'y a pas de vérité, moi, je trouve, intangible. J'attends de voir sur les routes du Tour. C'est vrai que Pogacar nous a montré sur le Giro qu'il était absolument stratosphérique. Attention, il va falloir aussi qu'il se remette bien de ce Giro-là, parce que ce doublé, c'est pas pour rien que personne ne l'a fait depuis 1998.
Jérôme.
Ouais, mais je pense que Pogacar, il est plus fort qu'il ne l'a jamais été cette année. Et je dis pas ça par rapport à son Giro. Pour moi, son Giro, c'était quasi gagné d'avance. Il n'y avait pas une concurrence folle derrière lui. Mais déjà, il a 1 à 2 kilos de moins que les années d'avant. On a l'impression qu'il est beaucoup plus dessiné. On sait qu'il a changé d'entraîneur. Des fois, quand on change d'entraîneur, on change de méthode de travail. Et finalement, ça fait du bien parce qu'au bout d'un moment, le corps, il s'habitue à la manière que notre coach a de nous entraîner. Et j'ai l'impression que ça soit depuis le début d'année, il est plus fort partout. On peut regarder les chronos, on regarde tout, il est plus fort partout. Et c'est ça qui est un peu inquiétant, enfin inquiétant pour les autres. Et Vingegaard, avec le pet qu'il a eu, voilà, ça rabat un peu les cartes. Mais s'ils n'arrivent pas à piéger Pogacar, je sais pas, sur des étapes de bordure, sur les étapes des routes blanches, etc. Bah, à mon avis, sans pépin, ça va quand même être très compliqué d'aller chercher Pogacar.
Je remets juste en mémoire ce qui s'est passé il y a 2 ans sur le Tour de France, où Pogacar a été piégé par Primoz Roglic et par toute l'équipe Jumbo-Visma à l'époque.
Ouais, mais ce que dit Jérôme, c'est que Pogacar, moi aussi, je le trouve
plus
fort que jamais.
Non, mais je suis d'accord, mais attends.
Mais bon. Il peut tout se passer, sauf qu'il faut avoir l'équipe en face pour provoquer, et on en parlera tout à l'heure, mais Visma Liesebike, la composition de l'équipe qui sera alignée sur le Tour de France ne va pas du tout ressembler à celle d'il y a 2 ans. Hein, avec
ils vont aller taper dans la Dévo.
Oui.
Ça va. Ça aura plus assez de coureurs.
Oui, c'est ça.
Les pauvres. Mais on ne sait pas. Même eux. Moi, j'ai eu une personne du staff que je connais. Ils sont quand même assez embêtés. Hein. Le Dauphiné, ça les a bien mis dans la panade quand même, parce que Van de Barle était prévu. C'est quand même très compliqué pour eux. Hein.
Bah, évidemment.
Ouais, c'est quand même très très compliqué.
Évidemment. Tiens, alors avant de s'intéresser justement au nouveau leader de cette formation Visma, j'allais dire Jumbo. Non, c'est fini ça, Jumbo. On va s'intéresser justement à un ancien leader de l'équipe, Primoz Roglic, qui a donc remporté le Dauphiné et qui a quand même un peu tremblé dans cette dernière ascension vers le plateau des Glières, même s'il était renseigné sur les écarts. C'est ce qu'il l'a confié hier.
J'étais renseigné sur les écarts avec Jorgensen, mais la plupart du temps, je l'avais en visuel, alors évidemment, c'est très serré, mais ça tourne à mon avantage, donc c'est parfait. C'est quelque chose dont nous avions besoin avec l'équipe, que nous voulions faire, mais c'est quand même fou d'avoir réussi à remporter ce Dauphiné.
Voilà, Primoz Roglic qui...
Faut aussi quand même savourer sa victoire. Combien de fois on a dit que Roglic, justement, n'était pas capable de
conclure. Ne savait pas gagner, ouais.
Voilà, sur Paris-Nice, il tombe. Sur le Dauphiné, il y a 2 ans, pareil, il abandonne. Sur le Tour de France, il se fait avoir par Pogacar. Bon, ben là, il gagne. Il continue quand même à construire un palmarès absolument exceptionnel, même si on est d'accord que c'est vraiment le Tour de France qu'il vise. Mais quand il dit que c'est... fou cette victoire. Je pense qu'il le pense profondément.
Ouais, je pense qu'il le pense par rapport à sa gamelle, à ses gamelles. Oui. Il est tombé 5 fois quand même depuis le début de la saison. C'est énorme, Jérôme, tombé 5 fois. Même s'il n'a pas eu de graves blessures comme Vingegaard, tu te fais secouer quand même à chaque fois quand même.
Mais bien sûr, et puis mentalement, c'est pas facile. Il l'a dit après le chrono, il a dit « je suis déjà content, je suis resté sur mon vélo ». C'est quand même un signe que ça le travaille. Alors, on sait qu'il est arrivé, j'ai connu la même chose, je tombais pas autant que lui, mais il est arrivé très tard au vélo, il manque quand même un petit peu de technique. Je veux dire, c'est pas que de la malchance de tomber 5 fois sur l'année, c'est pas de la malchance. À un moment, il est un peu maladroit aussi. Mais il dit un truc intéressant dans son interview, il dit « ça a tourné à mon avantage ». Depuis l'année dernière et le Giro, ça tourne souvent à son avantage, ce qui n'était pas le cas les années d'avant. On a parlé du Tour, bien sûr. Et ça, mentalement, ça va aussi lui faire du bien. Pour l'instant, la pièce tombe toujours de son côté depuis un an et demi. Donc ça, c'est aussi un bonus psychologique pour lui en vue du mois de juillet. Maintenant, je vais revenir un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure, mais on ne sait pas la préparation qu'ils ont eue. On sait que les coureurs font beaucoup d'altitude et quand on descend d'altitude, on a une fenêtre de tir où on est bien, mais au bout d'un moment, on commence à piquer du nez et peut-être que l'équipe Bora et Roglic et Vlasov en particulier, sur la fin de ce Dauphiné, commençaient un peu à coincer et là, ils vont repartir en altitude, faire un petit rappel avant de s'envoler autour. Donc voilà, après lui, le gros point où il va falloir faire attention autour, c'est les chutes parce que voilà, il est coutumier de ça. Bien sûr qu'il va garder en tête toutes ses gamelles sur ses courses. À un moment donné, pour Evenepoel, c'est pareil. Quand tu te pluches toutes les 3 courses, à un moment donné, tu es un peu plus sur les freins, tu frottes un peu moins et puis tu risques de te prendre une cassure, de te faire piéger et puis de perdre la course comme ça.
Évidemment, donc attention aux gamelles pour Primoz Roglic et Remco Evenepoel. En tout cas, l'équipe Bora, même si effectivement dimanche elle a un peu subi quelques difficultés, disposera donc sur le tour d'une belle armada, Johan. Peut-être pas aussi impressionnante que celle de Poggi, mais quand même pas loin. Il y a de grands noms.
Toutes proches en termes de qualité même. Déjà, tous les coureurs présents sur le Dauphiné devraient être sur le Tour de France pour épauler Primoz Roglic. Évidemment, Alexander Vlasov, 6e du Critérium, qui, même s'il a craqué sur la dernière étape, a les capacités d'emmener loin son leader dans l'école. 2e du Tour de Romandie cette année, 4e du Tour de Catalogne, 5e d'un Paris-Nice, où d'ailleurs il était bien plus en forme que Roglic. Autre coureur qui devrait être dans les derniers à rester avec le Slovène dès que ça va grimper, c'est Jay Hindley, l'Australien, vainqueur du Giro 2022, avait bien commencé l'année, 5e du Tour de Valence, puis 3e de Tirreno-Adriatico. Adriatico quand même, il avait remporté une étape sur le tour d'ailleurs l'année dernière à la Reims. On peut ajouter Matteo Sobrero, le rouleur grimpeur italien recruté à l'intersaison, capable d'imprimer un très gros tempo. Bob Jungels qui apporte aussi de l'expérience, déjà vainqueur sur le tour et ancien lauréat de Liège-Bastogne-Liège. Nico Denz, 2 fois vainqueur d'étape sur le Giro l'année dernière. Marco Haller, vainqueur de la classique de Hambourg en 2022, qui devrait rouler sur
le plat. Ça a de la gueule quand même. Hein.
Mais aussi Danny Van Poppel pour les sprints. C'est quand même une équipe de champions. Ils ont tous gagné des grandes courses. Ils seront là pour protéger au maximum Primoz Roglic. Arnaud disait que j'étais dur avec la Bora. Moi, c'est une équipe juste qui m'impressionne. Il y a eu ce dernier jour sans, mais sinon, la semaine, elle est quasi parfaite. Hein, avec un Alexander Vlasov qui est au même niveau qu'un Adam Yates. Au même niveau, je pense, en tout cas pas loin de Matteo Jorgensen.
Mmh. De la gueule, cette équipe, Jérôme, non ?
Ouais, elle a plus que de la gueule. Et pour moi, je suis presque plus confiant dans la Bora que dans la UAE. UAE, sur le papier, elle a une équipe de galactique. C'est complètement dingue. Même Pogacar a dit c'est une équipe qui me fait peur parce qu'il va avoir beaucoup de pression. Mais ils ont énormément de mecs qui sont ultra individualistes chez UAE. Mmh. Les Ayuso, Almeida, je ne suis pas convaincu qu'ils se donnent à 110%. Pour Pogacar, il faudra vraiment que ça soit bien ficelé, qu'ils aient des bonnes consignes, etc. Alors que chez Bora, c'est vraiment un collectif. Ce n'est pas des individualités, entre guillemets, que tu vas accumuler dans ton équipe. Ils ont des mecs, hein, Johan l'a dit, Van Poppel notamment pour le plat, Marco Haller, etc. pour protéger dans les bordures. Et des mecs qui vont se mettre à la planche pour Roglic. Et toujours, je pense qu'ils vont garder un peu en secours Vlasov, hein, qui a quand même déjà fait 5e d'un Tour de France ou 4e d'un Giro. Donc sur des courses de 3 semaines aussi, il est capable de tenir la distance. Donc collectivement, je pense que la Bora va être beaucoup plus unie que UAE. Attention, après UAE, ils sont tellement forts qu'ils ont un petit avantage. Mais moi, j'ai plus confiance dans la Bora que dans l'équipe UAE parce qu'il y en a qui vont vouloir tirer la couverture à eux, quoi.
Je suis assez d'accord avec toi, Jérôme. Je pense qu'il y a
trop d'individualité.
Trop d'individualité dans cette équipe de Pogacar. Après, bon, j'ose espérer que UAE aura bien fait les choses et on a suffisamment critiqué justement la faiblesse du collectif ces deux dernières années à côté de Pogacar pour ne pas se féliciter de voir ça. Et on avait vu d'ailleurs que Yates l'an passé avait été juste parfait hein, avec Tadej Pogacar. Bon, voilà, J'attends quand même de voir. Ils n'ont pas intérêt à ce qu'un Polite, par exemple, abandonne rapidement, hein, parce que pour contrôler, ça ne va pas être la même chose. Hein.
Par exemple. Mais après, ça n'empêche pas. Hein. Moi, j'ai fait mon premier Tour de France en 2009, l'année où Armstrong revient dans l'équipe Astana de Contador. Je peux vous dire, c'était deux équipes en une. Hein. Même à l'hôtel, on était à Monaco dans le même hôtel. Armstrong avait sa garde, il mangeait à une table, il mangeait même pas à la même table, hein, Contador, et ça n'a pas empêché Contador de gagner le tour et Armstrong d'aller faire troisième. Donc même si, mais bon, c'est une drôle d'ambiance, paraît-il.
Hein.
Contador et Armstrong. Hein?
C'était une drôle d'ambiance, paraît-il, dans l'équipe quand même.
Ouais, c'était pour un premier tour. Moi, j'ai débarqué à l'hôtel à Monaco où il y avait Astana avec Armstrong et Contador. D'un seul coup, c'était tout bloqué parce qu'Armstrong sortait avec Sheryl Crow à l'époque. Elle arrivait en hélicoptère et c'était de la science-fiction. Je me suis dit, si le Tour de France, c'est ça, je sais pas où j'ai mis les pieds. Quoi. C'était malade.
Il débarquait de sa Haute-Savoie et il était à Hollywood.
Ah ouais, c'est clair. Déjà, Monaco, c'était Las Vegas pour moi. Alors, imagine avec Armstrong. Strong et Contador.
Alors, pour en revenir à Roglic et donc à cette équipe Bora, il faudra aussi qu'il s'habitue à son équipe parce qu'il le disait ces jours-ci. Au début de la saison, j'avais quand même tendance à suivre les mecs en jaune, c'est-à-dire les mecs de l'équipe Visma Lisebike, la coureur de son ancienne équipe. Dimanche, il aurait bien aimé pouvoir suivre d'ailleurs le coureur de la Visma Lisebike, Matteo Jorgensen, à qui il n'était pas en jaune, il était en blanc, meilleur jeune. Il n'a manqué que 8 secondes à Jorgensen pour remporter une nouvelle course par étape de référence. Un jeune homme quand même épatant que ce Jorgensen, Arnaud.
Oui, épatant l'américain Matteo Jorgensen, notamment par ses aptitudes à parler un français presque parfait, comme hier, après avoir bien failli renverser le Dauphiné au plateau des Glières, un scénario auquel le jeune homme croyait dès le départ de la dernière étape le matin à Thônes.
Depuis ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai cru que c'est possible. J'ai eu la même feeling que le matin de l'étape 8 de Périgny. Je suis pas bien dormi hier soir parce que j'étais très excité, on va dire. Donc j'ai cru. Et, en fait, j'ai jamais testé mes limites sur 3 jours consécutifs comme ça. Donc, j'ai passé le test, quoi.
Voilà, le test est passé. Il échoue finalement à 8 petites secondes de Roglic. Alors, à 24 ans, natif de Walnut Creek, en Californie, il parle un si bon français parce qu'il a été formé en France dans l'ancienne réserve d'AG2R, la mondiale. À l'époque, nous sommes en 2019. Vincent Lavenu, le patron de l'équipe française, veut le garder pour l'amener tranquillement vers le monde professionnel. Mais la formation Movistar va mettre sous le nez de Jorgensen un premier contrat pro tout de suite. Le jeune homme ne peut refuser et va faire ses armes donc sous les couleurs de l'équipe espagnole avant qu'AG2R ne tente de le ramener dans ses filets l'hiver dernier. Mais Visma Lisebike, la meilleure équipe du monde, est sur les rangs. Et Grishan Yerman, le directeur sportif, ne peut, avec le staff, laisser passer un tel talent.
On l'a signé car on savait qu'il était un super coureur et qu'il avait un super potentiel. Et il l'a montré en gagnant Paris-Nice et à travers la Flandre. On est très heureux et il fait de belles progressions sur tous les aspects de la course. Et ça, c'est bon pour l'équipe. Ça va aller de mieux en mieux.
Une belle progression, notamment sur le chrono. Hein, Jorgensen a commencé à travailler en arrivant chez Visma Lisebike cet hiver. Quatrième sur celui du Dauphiné. L'Américain a montré qu'il faudrait sans doute compter sur lui à l'avenir dans cette discipline quasi indispensable pour espérer briller sur les grands tours. Alors, compte tenu de l'état de forme incertain de Vingegaard en vue du Tour de France, Visma pourrait-elle compter dès cette année sur Jorgensen pour jouer la gagne? La réponse de Grishan Yerman est assez claire.
On veut gagner le Tour de France et on doit être honnête avec Matteo, on ne le gagnera pas. Il peut être vraiment très bon et bien sûr que c'est une option, mais on doit penser à gagner le Tour de France. Matteo a un rôle très important à jouer sur cette épreuve, mais Jonas est irremplaçable.
Voilà, Jorgensen donc qui n'est pas encore un plan B pour la Visma Lisebike, qui n'a que un plan A. Tout dépendra de l'évolution finalement quand même de l'état de Vingegaard ces prochaines semaines, hein, à l'entraînement dans les Alpes. Il a récupéré de ses blessures suite à sa grave chute début avril, mais son encadrement attendra le tout dernier moment pour prendre une décision. Grishan Yerman me disait l'autre jour, probablement vous aurez l'équipe 72 heures avant le départ du Tour de France.
Très bien. Eh ben, il va falloir. C'est comme les équipes de foot. C'est le plus tard possible maintenant qu'on a la composition. Intéressant ce que dit Niermann, Arnaud.
Oui. Voilà. J'ai du mal à le croire.
Oui. Alors je sais pas. Justement.
J'ai du mal à le croire.
On peut en débattre.
Alors, enfin, j'ai du mal à le croire. Non. Fondamentalement, je suis d'accord avec lui sur le fait que
Matteo Jorgensen. Ils peuvent pas gagner le tour avec Jorgensen.
Bah, disons que. Disons
face à vous,
si vous considérez que Roglic n'est pas au niveau de Pogacar, je pense que Jorgensen est lui non plus pas au niveau de Pogacar. À mon avis.
Alors, tu penses que Roglic, au niveau de Pogacar, il gagne avec 8 secondes d'avance sur Jorgensen ?
Non, mais
Jorgensen ne serait pas au niveau.
Ce que je veux dire par là, c'est que Jorgensen ne gagnera pas le tour cette année. À mon avis, ça me semble quand même un petit peu compliqué. En revanche, j'ai du mal à croire Grisha Niermann quand il me dit Jorgensen reste un plan B et c'est un équipier. Ça, par contre, j'ai du mal à le croire. J'attends de voir si. Parce que Vingegaard, il sera sur la. Excuse-moi, Jérôme, juste pour finir, Vingegaard, il ne sera sur la liste de départ que s'il est parfaitement compétitif.
Que s'il peut
ouais, mais justement, dans l'interview de Niermann, là, quand il dit ça, c'est qu'ils sont quasi sûrs que Vingegaard, il sera au départ du tour.
C'est ça,
Tu peux pas dire d'un mec qui a gagné Paris-Nice, qui a failli renverser le Dauphiné à la dernière étape, qui marche comme un avion depuis le début de l'année, tu peux pas dire c'est même pas un plan B parce que Vingegaard est irremplaçable. S'il dit ça, c'est que Vingegaard sera au départ du tour. Si Vingegaard est au départ du tour, Jorgensen, bien sûr, sera l'équipier et le dernier lieutenant avec Kuss en montagne, mais ils sont quasi sûrs que Vingegaard sera au départ du tour. Sinon, bien sûr qu'ils emmèneraient Jorgensen sur le tour en leader, pas pour le gagner parce qu'il n'est pas encore dans la même cour que Pogacar, mais au moins pour lui apprendre à gérer le Tour de France sur 3 semaines en tant que leader d'une équipe comme Jumbo Visma? Lead the Bike. Visma Lead the Bike plutôt. Ouais. Mais tu es obligé, s'il n'y a pas Vingegaard, de l'emmener pour qu'il puisse apprendre ce que c'est que d'être un leader sur 3 semaines à la tête d'une telle équipe. Donc s'il dit non, on sait même pas notre plan B, c'est que Vingegaard sera au départ du tour, c'est sûr.
Ouais, effectivement.
Mais c'était pas aussi clair. Alors voilà.
L'interview
que j'ai réalisée donc avec Grisha Niermann, c'était au matin de la 7e étape. Pour le coup, je lui ai vraiment demandé.
Derrière, il y a eu l'ascension du plateau des Glières quand il lâche Roglic quand même.
Oui.
Ça peut aussi faire changer d'avis un patron d'équipe.
Alors pour être tout à fait complet, j'avais terminé mon interview, j'avais dit et même si Jorgensen gagne le critérium du Dauphiné, ça sera pas un plan A. Et il m'avait dit non, c'est pas prévu comme ça. Mais en même temps, il me disait pas de manière sûre et certaine que Vingegaard serait sur le tour. Il m'a dit, vous aurez la composition au dernier moment parce que pour l'instant, on est incapable de vous dire si Vingegaard sera sur le tour.
Il joue le bluff.
Bien sûr,
total,
mais ça peut être aussi un bluff pour protéger Jorgensen.
Oui, bien sûr.
C'est possible avec eux,
de toute manière. Hein, ils sont quand même coutumiers du fait. C'est des joueurs de poker.
Toutes les équipes font ça. Ça met aussi une certaine pression d'un côté à Pogacar parce qu'il ne sait pas si Vingegaard sera au départ du tour. Il ne sait pas trop quelle équipe Visma vont mettre au départ du tour. Voilà, c'est aussi un petit moyen de garder un peu Pogacar sous pression. Mais Jorgensen, il a largement, je pense, le. Alors après, à voir si lui, par contre, est arrivé à 100% de sa forme au départ du Dauphiné, parce qu'on va quand même rappeler que la dernière semaine du tour, elle va arriver dans 6 semaines le Dauphiné,
c'est
donc
suite,
c'est encore loin. Mais par contre, il a largement le podium dans les jambes, Jorgensen, je pense. Il roule très bien, il frotte très bien. On sait que sur les classiques, c'est quasi un des cadors maintenant. Et puis en 2023, il fait déjà une belle année. Et Arnaud l'a dit, il adore le chrono. Rappelez-vous des tweets qu'il avait fait, ça n'avait pas trop plu à Movistar, mais où il payait lui-même ses stages en altitude, il payait lui-même son guidon de chrono moulé à sa position et tout ça. Donc, ce n'est pas non plus pour rien qu'il a choisi cette équipe-là. Il sait qu'ils sont à la pointe de tout et c'est un moteur incroyable. Donc, même si ce n'est pas le plan A cette année, il va très vite le devenir.
Je peux vous dire qu'on s'en mord les doigts du côté de Decathlon AG2R.
De ne pas avoir mis
C'est pas tellement. Parce qu'à ce moment-là, il n'est pas professionnel au moment où Movistar le recrute. Et en fait, Vincent Lavenue, lui, il est vraiment dans la perspective de le former, de le laisser dans le cocon de Chambéry, etc. et de le faire monter l'année suivante. Sauf que, t'as à 19 ans, t'as Movistar qui arrive et qui dit nous on te met un chèque, en gros tu vas gagner ta vie grâce au vélo. Qu'est-ce que tu fais? T'y vas évidemment. Mais c'est vrai qu'il a eu des discussions quand même assez avancées, notamment avec Julien Jordi et Vincent Lavenue l'hiver dernier pour venir chez Decathlon AG2R. Et voilà, il y a eu des discussions quasi finales avec l'équipe française.
Après la formation néerlandaise a quand même la faculté de transformer des coureurs moyens plus en super champions.
Oui, mais c'est pas un pimpin.
Non.
C'est
Non, mais
ça fait un moment qu'on en parle quand même. Hein,
c'est quand même en arrivant là-bas que des bons coureurs sont devenus des immenses coureurs.
Ils passent des caps, en fait. On pense à Christophe Laporte aussi, hein, de la Cofidis à la Visma et qui a été à la Jumbo à l'époque, qui a été énorme et qui a passé un sacré cap là. Jorgensen, c'est ce qu'il est en train de faire cette saison.
Oui, mais parce que les caps, ils sont réels aussi en termes d'entraînement, en termes de c'est pointu en fait. Ce que fait Visma Liseberg, c'est pointu
et même
Christophe Laporte, il n'était pas réputé pour être particulièrement assidu chez Cofidis à tous les stages. Mais là, je peux te dire que de partir 3 semaines en altitude, forcément que ça change des choses. C'est évident.
Alors, la Visma qui, mis à part la confirmation, Jorgensen a encore joué de malchance, on l'évoquait tout à l'heure, avec les chutes et les abandons de deux grognards de l'équipe, Van Barle et Kreuzweig. Ça commence quand même à faire beaucoup, Johan. Arnaud nous le disait, on connaîtra la composition que 72 heures avant. Jérôme nous disait que du côté de Visma, on commençait à se poser des questions pour savoir qui mettre. Ça pourrait être quoi ? Ça pourrait ressembler à quoi cette équipe pour le Tour ?
Ah, parce que Vingegaard n'est pas confirmé, on enlève les deux coureurs que tu as cités. On aura Matteo Jorgensen, évidemment, qui sera là, peut-être pour prendre le rôle de leader. Si le Danone ne participe pas, on a Tish Benoit qui sera là, énorme aux côtés de l'Américain. On a Sepp Kuss
qui n'a pas été terrible.
Voilà, qui a, non partant lors de la dernière étape, et une saison extrêmement moyenne, pour ne pas dire catastrophique. Jan Tratnik qui sera là, lui, dans la plaine pour protéger tout le monde. Christophe Laporte, qui devrait participer à son 10e Tour de France consécutif, mais on ne sait pas où il en est, il reste sur un abandon sur le Tour d'Italie. Il reste donc 2 voire 3 places à prendre, peut-être pour les Néerlandais, Bart Lehmann et Koen Bouwman, qui étaient sur le Dauphiné, ou alors des hommes présents sur le Tour de Suisse. Je pense à Bentelec, je pense à Robert Reisink ou Wilco Kelderman, qui pourraient donc jouer les pompiers de service. Mais c'est
pas
le
flou total. Pas de Van Aert.
Ouais, Van Aert.
Alors Van Aert, pareil, c'est pas du tout sûr pour l'instant qu'il passe le Tour de France. C'est pas impossible, mais c'est pas ce qui est programmé à la base. Donc
oui, Van Aert, c'était pas dans son programme originel. Ouais. Mais bon, avec la gamelle évidemment qui a changé, qui a tout changé.
T'as quand même un objectif olympique derrière.
Ah oui, c'est ça.
On a aucune info.
Il est quand même en stage en altitude avec l'équipe. Il a quand même pas beaucoup couru, même s'il y a les jeux derrière. À un moment, il va falloir quand même qu'il trouve quelques courses à faire. Donc un Van Aert, s'ils arrivent un peu à le gérer sur quelques étapes et à pas le mettre au four et au moulin sur toutes les étapes, je pense qu'il y a des étapes qu'il va pouvoir faire un peu plus tranquille, et avec un coureur de ce calibre-là, ça va pas forcément trop le pénaliser pour les jeux, parce qu'il a pas beaucoup couru. C'est pas la même chose avec un Julien Alaphilippe par exemple, qui a déjà fait le Giro, qui a bien tapé dedans au Giro, et lui, pour moi, ça aurait été une erreur qu'il participe au Tour. Mais Van Aert, il est pas dans la même condition. Il n'a pas le même nombre de jours de course que peut avoir un Julien Alaphilippe à la sortie du Giro. Donc, personnellement, moi je le mettrais, même pour sa confiance, il peut gagner au moins une ou deux étapes. Je pense que pour les Jeux, ça peut être intéressant quand même de mettre Van Aert.
Très bien, nous verrons ça. Donc, on saura ça en arrivant à Florence, à 3 jours du départ du Tour de France. Jorgensen, deuxième de ce Dauphiné, donc à 8 secondes de Roglic. Pour compléter le podium, un Canadien de 26 ans nommé Derek G, qui a réalisé une semaine incroyable, Jérôme. Un garçon qu'on avait découvert l'an dernier sur le Giro, où il avait fait
4 fois deuxième.
Cette semaine, il a appris à gagner une étape, puis à suivre les meilleurs dans la montagne. C'est beaucoup quand même pour un seul homme, hein, Jérôme.
C'est beaucoup, c'est ultra surprenant surtout, parce que voilà, vous avez dit hein, les places qu'il a fait sur le Giro, mais c'était toujours en échappée. Après, si on prend un peu son palmarès sur le classement général de certaines courses, ce Giro-là, il a fait 22e en se replaçant grâce à ses échappées, mais sinon, il a fait une 34e place sur un Tour de Nunder, et même avant de passer dans la Pro Tour, 28e au général d'un Tour de Normandie ou 46e d'un circuit des Ardennes. Jamais, moi j'aurais pensé qu'il était capable d'aller faire podium du Dauphiné. Alors après, est-ce que lui, il est arrivé à 110% de sa forme pour essayer de gagner sa place pour le Tour, etc. Ça, on va jamais le savoir. Moi, en 2010, j'étais dans l'équipe Source-Jasson, on n'était pas invité sur le Tour de France. Je suis arrivé à 110% de ma forme, j'ai fait 5e du Dauphiné, mais jamais j'aurais pu la tenir après si j'avais dû aller sur le Tour de France. Donc, à voir, mais il a quand même pas beaucoup couru, hein, Derek G. Il a le même nombre de jours de course que Remco, par exemple, alors que Remco a chuté. Donc, quand même, c'est ultra surprenant, et c'est ultra surprenant de le voir enchaîner comme ça les grosses performances et de suivre les meilleurs. Enfin, moi, j'étais bluffé. J'aurais pas du tout misé sur lui. Maintenant, est-ce qu'il va tenir sur le tour? J'y crois pas du tout. Est-ce qu'il doit même viser le général? Je pense pas. Je pense plutôt qu'il doit essayer d'aller chercher des étapes parce qu'avec ce qu'il a montré la semaine dernière au Dauphiné, il est quand même capable de jouer plusieurs fois les victoires. Voilà, après, je le répète, mais la dernière semaine du Tour est dans 6 semaines. Et si on est au top de notre forme au Dauphiné, en général, on coince très vite sur le Tour.
Ouais. On le sera plus dans 6 semaines, effectivement. Derek G, qui fera donc le Tour de France, sera-t-il le leader ou non de la formation Israël Premier Tech?
Bon,
parce qu'on rappelle que Chris Froome participera également à ce Tour de France, mais bon, sans vraiment beaucoup d'ambition vu son état. Un mot sur Rodriguez, avec toi, Arnaud, vainqueur d'étape dimanche, 4e au général,
à
confirmation,
sa place.
Il est à sa place. Ouais.
À sa place, je pense, mais pas beaucoup plus, en fait. Lui, pour le coup, je le vois pas être un cran au-dessus, comme potentiellement peut l'être Jorgensen. Alors, c'est un très bon coureur, on l'avait découvert l'an passé, il avait pris le leadership en lieu et place de, comment il s'appelle, Thomas Pidcock, qui avait un petit peu été en méforme sur le Tour de France. On avait découvert un garçon qui était vraiment très fort, mais il a aussi été en difficulté, je trouve, là, de manière un petit peu trop facile, alors à l'exception de cette dernière étape, mais je trouve que il a quand même pas été impérial. Carlos Rodriguez, pour moi, il me semble quand même un cran en dessous des autres, même si c'est plutôt sympa pour lui de devoir gagner cette dernière étape au plateau.
Il nous manque quelque chose, en fait, avec
Carlos Rodriguez. Ouais.
C'est pas, on peut comparer avec Juan Ayuso, par exemple. Il a abandonné, mais Juan Ayuso a quelque chose en plus, on le sent en fait dans la façon de courir, dans ce truc là c'est plus profond, c'est au-delà des capacités physiques. Carlos Rodriguez, on a l'impression que c'est un coureur, ça sera un très bon grimpeur, un peu à la Henrik Maas, sera un très très bon grimpeur, il va faire des top 5, peut-être podium sur le général, en tout cas sur la Vuelta. Mais je ne le vois pas beaucoup, beaucoup plus haut, Carlos Rodriguez, même si il a une bonne équipe autour de lui.
Et puis, il prend cher sur le chrono, Carlos Rodriguez. Hein, il a quand même pris une 40 sur Evenepoel, donc on peut imaginer qu'il prendra à peu près autant. Donc là, il y avait 34 km de chrono, sur le Tour, il y en aura 59. Donc on peut imaginer quand même qu'il prenne un petit éclat sur le chrono, et déjà que ça le handicap de quelques minutes. Donc je le vois mal se mêler à la lutte. Une lutte pour le top 10, évidemment, mais top 5, ça sera déjà très bien pour lui, je pense.
Alors, vous avez évoqué, Monsieur Souk, le nom de Remco Evenepoel, donc 7e à 2 minutes 25 au général de ce Dauphiné, lui qui occupait la première place avant l'arrivée dans les Alpes, et un très beau chrono qui lui avait offert le maillot jaune. Remco avait prévenu avant le Dauphiné qu'il manquerait sans doute un peu de fond, ça s'est vérifié, mais il est confiant pour la suite, tant mieux, on l'écoute.
Souffrir ici, ça va aider à être plus calme et avec des meilleures jambes dans le Tour de France. Donc je pense que j'ai passé une bonne semaine. Malheureusement, il y a eu une chute avec tout le peloton. Mais sinon, je pense que c'était une semaine parfaite avec une victoire d'étape. Je pense que j'ai terminé 6e, je ne sais pas sur quelle place je termine dans le classement. Donc je pense qu'avec une forme à que 85%, c'est pas mal.
C'est pas mal, 85%. Jérôme, ton avis là-dessus? Il est confiant, tant mieux pour lui. Mais bon, est-ce que tu es aussi confiant que lui?
Non, je ne suis pas aussi confiant que lui. S'il est vraiment à 85%, alors il a encore de la marge, mais est-ce que en si peu de temps, tu peux aller gagner tous les pourcentages qui te restent? C'est moins sûr. En tout cas, la priorité pour lui, ça va déjà être de se délester de quelques kilos, Remco Evenepoel, parce que moi, je l'ai trouvé un petit peu grassouillet.
Un ou
sur
deux,
ce
il dit
Dauphiné.
Lui.
Ouais, au moins deux. Il en a au moins deux, je pense. Maintenant, il a cette histoire de poids. Le chrono, il a gagné le chrono, mais il est pas encore à son niveau. Je pense qu'au top de sa forme, il aurait fait des écarts encore un peu plus grands. Mais je trouve qu'il manque encore aussi un peu de punch. Je sais pas, il lui manque pas mal de petits paramètres. Oui. On sent qu'il avait beaucoup travaillé son explosivité. On l'avait vu gagner des étapes sur des courses en petit comité, etc. Et puis il se rapprochait un peu d'un Roglic. Là, on sent qu'il a pas cette giclette. Sur les chronos, quand il faut rouler vite et longtemps, ça va à peu près. Mais dans les bosses, on sent que pour l'instant, il est limité. Pareil, il n'a pas beaucoup couru, mais Roglic non plus. Ils sont tombés sur la même course.
C'était quand même des bosses, Jérôme, qui étaient très particulières, qu'on ne va pas forcément retrouver sur le Tour de France, en tout cas pas forcément dans les finales d'étape. C'était des bosses à 9,5, 10% de moyenne sur 10 km, qui correspondent peut-être un tout petit peu moins aux capacités d'Evenepoel, si je puis me faire l'avocat du diable.
Oui, c'est vrai, mais dans les Pyrénées, c'est des cols qui sont... Il y a des fois, tu as quand même des bons pourcentages. C'est quand même assez régulier. Ça monte un peu plus raide, ça redescend. Pour moi, c'était de toute façon, même avant ce Dauphiné, pour moi, c'était pas un favori du Tour, Remco Evenepoel. Ça reste pour moi Pogacar et Vingegaard. Ça reste malgré son Dauphiné moyen, ça reste un gros outsider, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, hein, Contador ou Nibali, des fois, n'ont pas gagné le tour, et le Dauphiné ont gagné le tour derrière. Voilà, maintenant, il a encore beaucoup, beaucoup de travail. Je pense que lui, il a encore plus de travail qu'un Primoz Roglic, par exemple, qui, tout, voilà, tous les deux ne sont pas au top, mais Roglic, il est... pour moi, quasiment à son poids de forme déjà. Donc, quand après, tu cours après quelques kilos dans la préparation, bah, ça fatigue aussi. Hein. Faut quand même se serrer un peu la vis pour perdre du poids.
C'est pour ça que je suis fatigué. Je me demandais pourquoi.
Faut se serrer un peu la vis. Mais après, si tout se passe bien, il devrait normalement monter en puissance au fur et à mesure des 3 semaines. Mais déjà, au top de sa forme, on sait qu'on a des petites inquiétudes sur Remco pour enchaîner les étapes de montagne. Voilà, à voir. Il est surtout là pour apprendre sur le Tour, parce qu'attention, le Tour, c'est ni le Giro, c'est ni la Vuelta. Donc, il est surtout là pour apprendre, mais pour moi, il devrait réussir quand même à rentrer dans le top 5, je pense.
Nous verrons, en tout cas, c'est intéressant. On a eu peur quand même cette semaine. On a eu très peur, hein, avec cette gamelle qui les a tous mis par terre. On s'est dit, là, c'est foutu. Heureusement, ils ont réussi à tous se relever, enfin presque tous, sauf évidemment quelques-uns, Van Barle et Kreuzvac notamment. Chute vraiment très impressionnante dans cette descente. On avait l'impression d'être sur une piste de ski. Il est l'heure maintenant, messieurs, de passer à la douloureuse et d'évoquer le pauvre Dauphiné de nos Français.
RMC, le baromètre des Français.
Alors, je vous le disais tout à l'heure en préambule, il n'y a toujours pas de successeur à Christophe Moreau. Dernier vainqueur tricolore du Dauphiné, c'était en 2007. Ça, on s'y attendait un peu. En revanche, devoir descendre jusqu'à la 15e place pour trouver le premier Français, ça, quand même... Arnaud, oula, c'est décevant.
Oui.
Hein, d'autant que les autres.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Non, mais bon.
Non, mais parce que. Alors, je vais quand même révéler aussi les dessous, les dessous un petit peu de la couverture du Dauphiné. C'est que je suis allé voir David Godu le lendemain matin de ses 4 minutes prises sur le contre-la-montre. Et je me suis un peu fait engueuler par David Godu parce que j'avais dit bon, comment ça va? Comment ça se passe par rapport au Tour de France? Alors, c'est une interview qu'on n'a pas publiée parce que je me suis dit il n'était pas dans un bon jour, je ne vais pas lui faire du tort. Je continue à ne pas vouloir lui faire du tort, mais David Godu quand même, voilà, ça sent pas la sérénité, ça respire pas la sérénité, ça respire vraiment pas la sérénité, et il a beau nous expliquer que les données sont bonnes, et c'est vrai, moi j'en ai discuté avec des gens du staff, manifestement les données de David Godu sont bonnes, le fait est que...
Il va te dire qu'elles sont mauvaises.
Hein. Oui, alors ça peut-être déjà, bon moi après je suis pas dans les Garmin des gars, hein, ni dans leur pédale automatique, mais ce que je veux dire c'est qu'il respire pas la sérénité, et il me dit ouais, vous les journalistes, vous pensez que parce que sur le Dauphiné ça va pas, sur le Tour de France ça va pas aller. Ouais, mais bon, David, l'an passé, t'avais visé podium, mais je crois pas que t'aies fait un podium sur le Tour de France.
Non, mais attention, l'an passé, il était 30e, là, il fait 15. Il est deux premières. Hein. C'est ça, hein, il fera peut-être 25.
Non, mais je pense qu'il y a un truc... psychologique avec David Godu, voilà. Désolé, hein, s'il nous écoute, il va mal le prendre, ce que je dis, mais c'est une réalité. Et puis j'en ai marre, moi aussi, de me taire. Tu veux. Enfin, c'est un coureur où c'est quand même compliqué, quoi. Compliqué de pouvoir communiquer, compliqué de pouvoir vraiment savoir ce qu'il pense, lui. Et donc, en fait, on est toujours dans le flou. Et donc, bah, cette 15e place, moi, je suis franchement incapable de vous la commenter. Voilà, tout simplement.
Jérôme, ton avis, bah, toi, avec un peu de recul, tu n'étais pas allé au contact de Godu pendant le Dauphiné?
Non, je ne suis pas allé au contact de David, je ne le connais pas, donc je n'ai pas de, j'ai pas de biais là-dessus. Mais pour moi, tu peux, là où il a raison, c'est qu'il faut, et on l'a dit déjà, il ne faut pas se focaliser sur les résultats du Dauphiné. Mais tu peux passer au travers et avoir des motifs de satisfaction ou d'espoir, on va dire. Chez David, je suis désolé, je n'en vois pas. Tu c'est prends ça. 4 minutes au chrono, on sait qu'il est, c'est pas sa spécialité. Mais là, il a pris, je crois, 1 minute 30 sur Warren Barguil, qui n'est pas non plus un spécialiste. Enfin, je veux dire, c'est une valise. Tu ne peux pas viser le top 5 du Tour en prenant 4 minutes sur le chrono d'un Dauphiné, par exemple. Et après, quand tu arrives sur son terrain en montagne, il est de nouveau pas là. Alors lui, il dit, oui, mais je descends de stage en altitude. On ne sait jamais comment réagir. Putain, mais les autres aussi descendent de stage en altitude. Et puis, ils ne prennent pas tous des cartons sur toutes les étapes. Alors oui, il va peut-être être bien sur quelques étapes autour. Perso, pour un bon classement général, j'y crois pas trop. Et à sa place, même, j'oublierai ça pour aller viser des étapes. Et pareil, hein, j'ai entendu une interview de lui la veille de... enfin de, est-ce que c'était la dernière étape ou l'avant-dernière étape, je ne sais plus, où il dit, ouais, le staff de l'équipe m'ont demandé d'aller au contact, de rester au contact des meilleurs, de ne pas prendre les échappées, etc. Putain, mais ça sert à quoi? Tu es déjà à 8 minutes, tu vas aller faire 11e ou 15e ou 25e ouais. du Dauphiné, tu t'en fous, c'était le samedi. Essaye d'aller gagner une étape. Voilà, il faut arrêter de... tu ne seras pas au contact de toute façon. Tu vas tenir, tu vas prendre 2 ou 3 minutes. Ça ne sert à rien. Il faut plutôt essayer d'aller jouer la gagne parce qu'au bout d'un moment, de s'accrocher pour faire top 10, top 5, tu perds le savoir-faire de la gagne. Tu n'arrives plus à gagner après quand tu arrives pour gagner puisque tu n'y arrives jamais. Donc, à un moment donné, il va falloir, on verra, hein, peut-être que l'équipe Groupama FDJ ont aussi dit à David, c'est ta, entre guillemets, ta dernière chance du général sur un grand tour, ou en tout cas le Tour de France. On tente encore cette année et après, on changera un peu de registre. Mais là, il y a quand même un vrai problème. Et puis, au-delà des 4 minutes sur le chrono, pour moi, il y a aussi un problème de position. Je veux dire, j'ai rarement
vu un coureur qui est aussi mal posé. T'as vu le comparatif avec Evenepoel, c'est incroyable.
Ouais, mais c'est... Alors, OK, on ne peut pas tous être posés comme Remco Evenepoel, mais il y a quand même un entre-deux, purée, ça me paraît quand même dingue. Et puis, je suis d'accord, l'état d'esprit, il est toujours un peu dans la confrontation. On a toujours l'impression que... Voilà, les journalistes,
sur la défensive à chaque fois.
Sur la défensive à mort. Mais on ne lui veut pas tous du mal. Malheureusement, les résultats sont
les premiers à dire l'an passé qu'on lui sautait que le podium.
Mais c'est exactement. Le style d'un coureur qui ne va pas bien. Mentalement, il ne va pas bien.
Voilà, c'est un coureur qui mentalement ne va pas bien. Et puis les résultats ne l'aident pas à aller mieux. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il change quelque chose. Que ça soit la préparation, que ça soit son objectif, ou en tout cas, l'équipe va devoir lui faire changer quelque chose, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça.
Doit-on complètement exclure la présence de Lenny Martinez sur le Tour de France?
On en parlait la semaine dernière. Marc était assez catégorique. Lenny qui est sur le Tour de Suisse.
Ouais, c'est ça, on va en parler. On va voir ce qu'il va faire sur le Tour de Suisse. Mais c'est vrai qu'il peut nous manquer, Lenny Martinez, quand même.
Ouais. Je suis pas convaincu qu'on doive complètement exclure sa présence.
Arnaud, tu prends les paris?
C'est pas un pari, non. C'est juste des discussions qui me laissent penser.
Ah d'accord.
C'est pas une info.
La semaine dernière, on s'est posé la question et on était tous arrivés à la conclusion qu'il y avait très peu de chances quand même qu'il participe au Tour. Là, tu mets un peu de.
Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas catégoriquement exclu par l'encadrement de l'équipe Groupama FDJ. Voilà. Okay.
Vas-y. Est-ce qu'on en sait plus sur son contrat de l'année prochaine?
Je peux te confirmer, mais comme on l'a dit déjà depuis le début de la saison, qu'il ne sera plus.
Il va chez Bahreïn, c'est sûr.
Il ne sera plus chez Groupama FDJ en tout cas l'an prochain. D'accord. Ça c'est une certitude.
Parce que c'est pas forcément, il part, du coup il va pas sur le Tour. Mais s'il restait, peut-être qu'ils auraient pu le mettre sur le Tour pour prendre de l'expérience, etc. Voir ce que c'est pour les années futures. Ça peut avoir son importance, son contrat de l'année prochaine.
Marc Madio ne peut pas le retenir.
Il n'a pas les sous. Ouais. Il n'a pas les sous pour le retenir. Il a eu des propositions terribles. On en saura là un peu plus. Là, c'est quoi le premier route, c'est ça, un premier route.
Mais moi, quand je vous ai dit et quand on a publié sur le site RMC Sport le fait que Lenny Martinez avait signé chez Bahreïn, c'est parce qu'on avait des choses qui nous l'attestaient.
Des infos sur béton, comme on dit. Le Groupama, finalement, Johan, le plus en vue sur ce Dauphiné, ça aura été Romain Grégoire, qui n'a certes pas remporté d'étape et qui finit loin en général, mais il a montré toute son envie, tout son talent, notamment la deuxième étape où la victoire lui échappe pour très peu. Voilà, c'est un garçon qui a envie, lui.
C'est ça, il a le punch, il termine derrière Derek J. Et c'est dommage parce que il avait, je pense, les cannes pour aller gagner. Il manque d'expérience, il part trop tôt, il contre le Canadien. Et derrière, il l'amène sur un plateau pour aller s'imposer. Voilà, un petit peu faux-follet, Romain Grégoire, il a tout donné. Hein, et on l'a vu, le nez en sang, il saignait du nez sur une étape aussi.
Je me demandais ce que c'était parce que je regardais, j'avais pas le son, mais d'un seul coup, il y a hémorragie nasale due sans doute à la déshydratation, c'est ce que j'ai lu.
Possible, oui.
Ouais,
c'est quasiment certain. En plus, il avait tout donné, Romain Grégoire. Mais voilà, c'est ça, c'est un tempérament offensif. On va le voir sur le Tour de France, Romain Grégoire, c'est comme ça qu'il doit courir absolument. En plus, si David Gaudu est un peu lâché au général, c'est parfait pour lui, comme ça il n'aura même pas besoin de travailler pour lui. Donc Romain Grégoire, c'est vraiment, j'aime pas trop ce terme, mais c'est vraiment une pépite française. Il est en train de passer un cap, il est en train de monter en puissance, Romain Grégoire, il faudra compter sur lui. Là, on l'a vu à l'offensive et sur le Tour de France, je pense qu'on va très souvent le voir à l'avant aussi.
Bon, heureusement qu'il y avait Romain Grégoire, Jérôme, parce qu'autrement c'est Waterloo pour nos Français.
Hein. Ouais, c'est bon, on va finir. On va quand même tirer un petit coup de chapeau à Bruno Armirage, qui a fait quand même un très beau chrono. Mais Romain Grégoire, je suis assez d'accord avec Johan, il a un truc en plus, comme Lenny Martinez, et je trouve, est-ce que David l'avait avant, mais pour moi, il ne l'a jamais vraiment eu. C'est des tueurs. Romain Grégoire et Lenny Martinez, c'est des tueurs, c'est des gagneurs. Lenny Martinez, voilà, quand il arrive pour la gagne, il ne se rate pas souvent. Romain Grégoire, c'est pareil. Là, pour moi, il fait une erreur. Bien sûr, tu l'as dit, Johan, au Dauphiné, mais parce qu'il ne s'attend pas à ce que Derek J ait un deuxième coup de gaz. Enfin, Derek J, on l'a dit tout à l'heure, on a tous été surpris. Moi, quand Romain Grégoire a contré Derek J, j'étais sûr qu'il partait à la gagne. Jamais j'aurais pensé qu'il était capable de remettre un coup, le Canadien. Donc voilà, c'est des deux coureurs qui ont vraiment, je trouve, comme tu dis, Johan, un truc en plus, ils ont ce truc de gagnant. C'est vraiment des gagneurs, c'est des tueurs. Et Romain Grégoire, sur le Tour, dès cette année, il est capable de claquer une étape sans problème.
Eh ben, c'est tout ce qu'on lui souhaite, c'est tout ce qu'on nous souhaite aussi, hein, parce qu'on aimerait bien quand même voir nos Français vainqueurs, histoire de réveiller nos commentateurs que sont Pierre-Yves et Arnaud sur ce Tour de France. Très bien, voilà pour aujourd'hui, messieurs. La semaine prochaine, on fera le bilan du Tour de Suisse. Là, tu m'as quand même appâté avec ton histoire de Lenny Martinez.
Non, mais je vais tempérer. Non, mais c'est juste une question que moi je me pose et que donc j'ai posée et j'ai pas trouvé les réponses. Très franche.
D'accord. Ok. Bon, voilà. On va gratter. On va gratter de ce côté-là.
Je te laisse gratter, Christophe.
Ouais, je vais gratter en vacances.
Parce qu'on a la même source.
Merci les garçons.
Moi aussi, je vais gratter en vacances d'ailleurs.
Aussi, tu vas. Bah non, il y a que Jérôme qui bosse. Oh, mais Jérôme, il bosse.
Eh
temps,
bah là. Oui. Et je... ah, c'est et moi. Il ouais. Y a toujours que moi qui bosse. En fait.
C'est vrai. Johan aussi un petit peu.
Ah, je serai là un petit peu.
Et puis évidemment, on se retrouve bientôt sur le Tour de France. Ça arrive là. On y arrive. Mmh. On y arrive les garçons. Merci. Bonne semaine. La semaine prochaine pour. Grand plateau, et évidemment, après pour le Tour de France. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Toutes les énergies du sport nous rassemblent. Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Énergie.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.